Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Baptiste.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes Carme. Vous avez écrit un dernier petit ouvrage aux éditions du Carmel et c'est dans la collection Vive Flamme. On parle de l'oraison et des anges. Faire oraison avec les anges est dans le premier chapitre. Et ça tombe bien puisque c'est la rencontre cette semaine avec cette figure de l'Ancien Testament. Le prophète Élie, vous en parlez dans ce premier chapitre. Alors, avec vous, on a revisité un peu cette vie du prophète avec les miracles
vécus,
entre les miracles, puis ce temps aussi qui a conduit le prophète à être éduqué pour entrer dans cette paternité avec le Père du Ciel, donc pour devenir fils, et il deviendra fils pour devenir père.
Exactement.
Voilà, ouais. Alors tout un programme, et puis j'invite, chers auditeurs, je vous invite à peut-être plonger dans le livre des rois, le premier.
Exactement.
Le deuxième livre des rois, et pourquoi pas, on trouve aussi pas mal d'enseignements quand on cherche.
Exactement,
sur cette figure. Alors on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, on va prendre une petite montagne, si vous le voulez bien.
Voilà. Faisons une ascension.
Voilà, une ascension, arriver jusqu'au bout pour rencontrer quelqu'un, voilà. Et parfois, pour rencontrer quelqu'un, il faut écouter, apprendre à écouter.
Oui.
Et donc, cette montagne, c'est du côté de l'Horeb.
Exactement.
Le rendez-vous. Alors, resituez un petit peu cette montagne de l'Horeb et puis l'épisode important.
Oui, alors la montagne de l'Horeb, elle est connue surtout pour être le lieu de la révélation de la loi par Dieu à Moïse. Elle est identifiée au Sinaï. Hein. Donc, c'est le lieu par excellence où Dieu s'est manifesté. Et c'est justement ce lieu vers lequel Élie est conduit pour qu'après avoir rappelé la présence de Dieu au milieu d'un peuple qu'il avait justement rejeté ou oublié, eh bien, il puisse se remettre à l'écoute de ce Dieu qui s'était révélé à Moïse au Sinaï. Donc Élie va aller sur cette montagne de l'Horeb après ces fameux 40 jours et ces fameuses 40 nuits de marche dans le désert. Avant cela, cette rencontre avec l'ange justement, qui le prépare à la rencontre avec Dieu. Donc, il y arrive sur la montagne, dans une grotte, et avant même que Dieu se manifeste, une voix l'interroge. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, Élie va employer cette formule qui le caractérise. Hein, « Je suis jaloux ou zélé d'un grand zèle pour le Seigneur des armées. » Et il va rappeler justement tous les reproches qu'il a à faire à son peuple Israël. Et d'ailleurs, les rabbins s'en souviendront et diront qu'Élie n'a pas été très sympa tout de même avec Israël parce qu'il a même noirci le tableau, semble-t-il, puisqu'il dit que ce sont les fils d'Israël qui ont abandonné l'Alliance, détruit les autels, tué les prophètes. Alors qu'en réalité, c'est vrai que quand on lisait ce qui s'était passé auparavant, on a vu quand même que Jézabel avait sa part de responsabilité aussi. Et donc, on a l'impression qu'Élie exagère dans les invectives qu'il a contre Israël. Et en même temps, je crois que c'est une des conditions de l'écoute. C'est-à-dire qu'on en parlait, hein, comment Élie va être conduit à l'écoute. Eh bien, c'est peut-être de commencer par dire ce que l'on a sur le cœur à Dieu, quand bien même ce ne serait pas parfaitement ajusté à la réalité. Quand bien même j'exagère, c'est tout de même la vérité de ce que je porte que d'exagérer. Et il convient d'exagérer plutôt que d'exagérer en moi-même et de murmurer. Pourquoi pas en parler à Dieu ? Et c'est ce que fait Élie. Il n'a pas peur de dire à Dieu ce qu'il a sur le cœur. Et ça, je crois que c'est une des conditions essentielles pour qu'il puisse entendre après cette voix de fin silence qui lui sera donnée. Donc pour nous aussi, on a une leçon qui nous est donnée par l'exemple d'Élie, c'est que justement quand nous prions, quand nous faisons oraison, eh bien on a le droit de tout dire, quand bien même ce ne serait pas la version ultime et la plus exacte de ce qui s'est passé.
Alors vous parlez d'écouter, vous parlez d'oraison, ce rendez-vous sur la montagne de l'Horeb, c'est un temps où le prophète lui-même Élie s'adresse à Dieu, il crie, est-ce qu'il est dans un état comme l'on peut appeler oraison?
Mais je pense, oui. En tout cas, c'est ce que Saint Jean de la Croix a compris, hein, quand effectivement Élie entend cette voix de fin silence ou cette brise légère, ça dépend des traductions, il l'interprétait comme étant justement cette touche très délicate que Dieu peut accorder dans ces temps d'oraison. Donc l'oraison, cette prière intérieure qui nous met à l'écoute de Dieu et justement qui aussi présuppose une certaine préparation. Et on voit bien que cette préparation, déjà, elle commence par le fait qu'Élie parle à Dieu, lui dise tout ce qu'il a sur le cœur. Et puis aussi, il y a une autre préparation, c'est que Dieu, avant de se manifester dans cette voie de fin silence, fait tout de même retentir certains de phénomènes cosmiques. Donc, il y a un tremblement de terre, un grand ouragan, un feu. Et là aussi, on a l'impression que Dieu prépare le terrain par des phénomènes de plus en plus impressionnants, de moins en moins impressionnants, en fait. Ils sont d'abord, au début, très impressionnants, et puis ça va entrer dans une dimension de plus en plus subtile pour que Élie soit un petit peu comme dégrossi d'une certaine manière et que après avoir entendu cet ouragan, ce tremblement de terre et ce feu, il puisse se mettre à l'écoute d'une communication de Dieu plus silencieuse, plus intérieure, et c'est cette voix de fin silence.
Il y a une ascension de ce prophète au fil de ses émissions et à la lecture de la vie de ce prophète, c'est prodigieux.
Oui, oui.
Cette figure.
Oui, oui, oui. Et elle est, on pourrait dire qu'elle est extrême dans tous les sens, c'est-à-dire que extrême dans sa relation avec Dieu, dès le début, il est vivant le Seigneur en présence de qui je me tiens. Extrême aussi peut-être dans la manière de gérer les charismes qui lui sont confiés, parce qu'on a l'impression que parfois il en fait un petit peu plus que ce que Dieu lui a demandé, et donc il va être éduqué. Et puis extrême aussi justement dans l'épreuve par laquelle il va passer, donc ce désir de mourir au milieu du désert, et puis extrême, on pourrait dire, dans la profondeur à laquelle il est appelé, parce que entendre cette voix de fin silence, on pourrait dire que c'est vraiment l'expérience la plus haute qui puisse être faite par un homme sur cette terre. D'ailleurs, des spirituels du 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelait les Esséniens, donc, qui ont laissé certains textes dans ce qu'on appelle les fameux manuscrits de Qumran, disaient que cette voix de fin silence était celle qui était entendue par les chérubins dans le ciel. Et donc, c'est comme si ils comprenaient qu'Élie, dans cette expérience qu'il fait à l'Horeb, était assimilé à ces êtres qui sont les plus proches de Dieu. Vous voyez, donc on pourrait dire qu'il est extrême sur tous les plans. Et c'est en ce sens qu'il est très intéressant, parce qu'il nous montre en gros ce qui se passe souvent dans notre vie, peut-être en plus petit.
Alors il nous montre, qu'est-ce qu'il peut montrer aujourd'hui à ce peuple?
Alors, je crois que déjà...
Et qu'est-ce qu'il peut dire à ce peuple?
Au peuple d'aujourd'hui, c'est
au
ça?
Au peuple
à chacun
d'aujourd'hui,
d'entre nous.
Oui.
Oui, je crois que déjà, on pourrait dire qu'il y a une sorte de réflexion sur la meilleure manière d'obtenir une conversion massive. C'est-à-dire que ça peut être une des questions, quand on voit la sécularisation, on se dit, mais comment faire pour que tout un peuple qui, il y a quelques années, semblait chrétien et qui, après une génération ou deux, ne l'est plus, comment faire pour obtenir une conversion massive? Et donc, on pourrait dire qu'Élie, c'est la question peut-être qu'il se pose. Et la première piste qu'il creuse, c'est justement organiser un grand événement qui va mettre tout le monde d'accord et qui permettra à Dieu de se manifester. Alors oui, ça marche, mais d'une manière temporaire, comme on l'a vu. Et finalement, on pourrait dire que la plus grande urgence pour obtenir cette conversion du peuple, c'est justement qu'Élie consente à mourir à lui-même, à se mettre à l'écoute de Dieu et à entendre justement quel est le dessein de Dieu sur ce peuple. Et on voit bien que justement Dieu a des choses à dire, et c'est ce qu'il dira à Élie, il a une mission pour Israël, une mission pour les nations alentour, et donc plutôt que de vouloir convertir rapidement le peuple, Élie va plutôt être invité à écouter ce que Dieu a prévu pour son peuple et pour les nations alentour, et à se mettre au diapason du plan de Dieu.
Alors aussi, on en parlera peut-être demain, et on pourrait faire des séries et des séries d'émissions sur ce prophète.
Ah oui, je crois, oui.
Il y a aussi ce disciple du prophète Élie. Élisée, on en parle demain.
Exactement,
voilà.
Oui, tout à fait.
Il aurait tant de choses à dire, mais j'espère que ces courtes émissions donneront peut-être le goût d'aller plus loin pour rencontrer cette figure, pour être peut-être redynamisé dans son chemin de vie, et d'intimité avec le bon Dieu. Voilà. voilà, et retrouver ce père. Frère Baptiste, je vous propose de vous retrouver dès demain. Et puis j'en profite aussi pour rappeler que vous avez aussi publié donc aux éditions du Cerf, c'était en 2023, sur Ézéchiel, ce livre s'intitulait « Le char des chérubins ». Et on vous retrouve demain. Merci.
À demain.